Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
On en jase, votre émission du midi. Il est présentement 13h19 minutes pour nous joindre. Vous le savez, 418-971-1021. On s'en va rejoindre immédiatement en direct de la grande métropole. Animateur au 99.5 et chroniqueur deux fois par semaine dans l'émission On en jase ici sur les ondes de boulevard. Rémi Villemur, comment vas-tu?
Ah, je vais très bien, vous deux.
Ça va super bien. Rémi, on a fait jouer un extrait avant ton entrée en onde de David, cet homme de Québec qui s'est marié avec son amoureux sur intelligence artificielle. Je sais que tu m'as écrit, Jeff, ça prouve la grande solitude qu'on éprouve présentement au Québec. Veux-tu nous expliquer davantage ton point de vue par rapport à ce reportage qui sera sur TVA dans l'émission JE?
Oui, tout à fait, mais je noterais quand même au passage qu'il y a quelques années, quand on disait que ce genre de choses-là allaient se produire, on nous disait « bon, c'est pas parce que c'est arrivé dans un film que ça va se produire, c'est pas parce que techniquement ça pourrait se produire, ça va se produire, ça se produit. »
Oui, quand la fiction rattrape la réalité.
Oui, puis la personne en question, en passant, elle témoigne à visage découvert, là, donc je porte pas de jugement sur elle, sur cette personne-là, mais je dis juste que si elle va jusqu'à témoigner à visage découvert, c'est qu'elle s'assume en quelque sorte. Donc, on est rendu là. C'est un degré supplémentaire, je pense, d'acceptabilité sociale, disons-le ainsi. Ben oui, c'est de la solitude parce que dans un monde que j'ose encore qualifier aujourd'hui de normal, les rapports amoureux, les rapports d'amitié, les rapports charnels, finalement, on les entretient avec des êtres humains. Hein? On est d'une espèce en particulier. Donc, on trouve des êtres humains autour de nous qui ont les mêmes besoins que nous, les mêmes envies, et on les rejoint et on fait de cette personne-là une relation. Et quand ce n'est pas avec des humains, ce sont avec des animaux. Mais en tout cas, c'est des êtres vivants, tout simplement. Et là, on a des gens qui ne trouvent pas ces gens-là autour d'eux parce que sinon, ils n'auraient pas besoin d'aller les chercher en ligne. Ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est on sort de la solitude deux secondes, c'est le fait qu'on soit tellement désormais habitué de configurer notre vie comme on l'entend. Pensez à Netflix. Vous dites à votre blonde, un soir, on regarde un film. Il fut un temps où on allait dans un magasin, on cherchait les films chez Vidéotron. Oh, le film n'était pas disponible. On en prenait un autre, puis on passait à autre chose. Aujourd'hui, on peut tout trouver. Puis si on ne le trouve pas sur Crave, Prime, Netflix, Disney, on le pirate. Donc, on est habitué de configurer notre vie de façon à ce que la vie nous obéisse, finalement. Alors, quand on ne rencontre pas la bonne personne, puis la bonne personne, ça ne veut pas dire la personne qui est faite pour nous, ça veut dire la personne qui remplit toutes les exigences et, j'ose le dire, même les caprices qu'on a, on la retrouve en ligne, cette personne-là, puis on la bâtit avec un algorithme. Mais on voit bien que c'est quand même assez frette, là, au final.
Mais ça, j'adore aussi cette deuxième proposition de compréhension là, dans la situation, parce que d'abord et avant tout, merci à cette personne-là de s'être livrée, parce que ça nous permet de mettre le doigt sur quelque chose qui existe pour vrai. Combien de gens le vivent, la question demeure, mais quand même, c'est vrai, c'est tangible. La première, qui est la solitude, assurément, les gens ont de la misère à entrer en communication avec, avec l'autre. Des fois, on est un petit peu mésadapté social, c'est encore plus difficile de prendre le pouls d'œil. Il y a plein de sexologues qui parlent aussi des difficultés des générations plus jeunes d'avoir de la sexualité parce qu'ils sont tellement habitués de l'avoir par rapport à un écran, avec un écran, que le toucher, sentir la personne, voir la personne devient stressant quand tu arrives pour avoir des relations sexuelles. Il y en a plein qui réussissent même pas à bander, disons-le comme ça. Mais le deuxième point qui t'amène dans la conversation, le manque de compromis, la difficulté à faire des compromis avec quelqu'un d'autre parce qu'on est habitué à avoir la possibilité de exactement répondre à nos besoins, peu importe la situation maintenant en 2025. Je pense qu'elle, elle est hyper importante. Puis elle nous ramène aussi au débat qu'on vit en société. On a de la misère à débattre, on a de la misère à comprendre ce que l'autre veut nous dire, comment l'autre pense, puis surtout à le respecter. Est-ce que ça, ça a à voir dans le fait que certains s'attachent à des robots parce qu'ils vont dire oui, oui, puis ils vont faire ce que tu veux?
Quand vous posez la question là, à quelqu'un qui est issu d'une autre génération, pensons aux gens de 60 ans en montant, puis vous leur demandez de vous raconter leur histoire d'amour ou comment ils ont rencontré la personne qui a été la personne de leur vie, souvent, ces gens-là, assez rapidement, là, dans le processus d'explication, vous décrivent jusqu'à quel point l'autre personne elle les a fait avancer. Donc, moi, il me manquait quelque chose dans la vie. Cette personne-là, elle m'a fait réaliser ceci. Il y avait, avant, une compréhension de l'importance du compromis. On trouvait un sens dans le fait que la personne, elle construit la moitié qui nous manque dans notre personne. Puis aujourd'hui, ce n'est pas ça. Puis dans le témoignage qu'on va regarder ce soir à TVA, la personne en question qui se livre à visage découvert, elle va jusqu'à dire qu'elle a averti son mari, qui est un robot conversationnel, qu'il ne pouvait pas remplir tous ses besoins. Donc, par exemple, ses besoins sexuels, il s'autorisait, avec évidemment l'approbation du robot, à aller les obtenir dans le monde dit réel. Donc, on a quelqu'un finalement qui ne trouve pas dans le monde réel la personne qui peut répondre d'un point de vue strictement sentimental, tu sais, à ce qu'il attend d'un discours intellectuel. Le besoin charnel, il va le chercher ailleurs, mais pour encore combien de temps? Pour encore combien de temps? On les voit, les vidéos sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, de ces robots physiques là, dans lesquels on peut leur rentrer un doigt dans la bouche, puis on peut jouer avec ces robots-là. Ça s'en vient. Puis je ne veux pas être un prophète de malheur, je vous le dis juste, ça s'en vient, acceptez-le.
Mais ça, c'est intéressant. Puis Jeff et moi, on parlait du Japon, qui est précurseur, en fait, souvent dans plein de tendances sociales. Puis celle de la solitude a été remarquée il y a plusieurs années, la difficulté d'entrer en contact. Il y a plein de jeunes qui s'enferment dans leur chambre. Il y a eu plein de reportages là-dessus et veut pas, ça s'en vient ici. Puis eux choisissent effectivement beaucoup plus le rapport robotique, là. Le charisme robotique, je sais pas, le romantisme robotique.
Oui, bien, au Japon, il y a un ministère de la solitude. Il y a ça dans d'autres pays scandinaves également.
Ah, moi, je savais pas ça, c'est donc intéressant. Ouais.
Il y a un ministère de la solitude parce que, bon, en Japon, il y a toute une série de données là, qu'on peut croiser ensemble. Faible taux de natalité, il y a plus d'hommes que de femmes. Il y a le fait que les hommes travaillent énormément, donc les enfants restent souvent tout seuls à la maison, les femmes, même chose. Il y a un excellent film du réalisateur Iñárritu qui s'appelle Babel, qui a été fait il y a quelques années. Brad Pitt joue là-dedans notamment. Et ce sont trois histoires qui se recroisent. Et l'une de ces trois histoires-là se déroule au Japon. Puis si vous voulez comprendre c'est quoi le Japon, la solitude dans les grandes villes, Tokyo notamment, allez regarder Babel. Ça donne froid dans le dos.
Je vais regarder ça avec intérêt, Rémi Villemur. On parlait de compromis tout à l'heure. Est-ce que François Legault va faire le compromis ultime pour son parti, c'est-à-dire se retirer pour laisser la CAQ en vie, ou il va tenter le tout pour le tout, malgré le sondage d'hier dévastateur pour lui?
Alors moi, je vous dirais une chose, je suis très content de voir les mois filer comme ça, parce que ça fait déjà un an et demi qu'on parle de ça, puis ça fait déjà depuis un an et demi que je dis que moi, il va rester. Il va se représenter aux prochaines élections. Et là, à chaque fois qu'un mois passe et que je peux arracher une page du calendrier, je me rapproche du triomphe.
Et pourquoi tu es si confiant dans ta prédiction?
Alors, il y a deux arguments. Et il y en a un qui est relativement nouveau. Le premier, c'est la personnalité de François Legault. Gaëtan Barrette, qui l'a côtoyé, a dit dans les dernières heures, là, sur une autre tribune, moi, je l'ai rencontré, j'ai été son collègue. Puis c'est quelqu'un qui a une fierté peut-être exacerbée, exagérée. Lui, il pense qu'il peut revirer le vent de bord, puis il est la CAQ, hein, il a fondé la CAQ, il incarne la CAQ, donc il se dit, j'ai déjà été au sommet de la popularité, je ne vois pas pourquoi c'est perdu à tout jamais. Mais il y a un deuxième argument, c'est ce qui s'est passé à la dernière élection fédérale, parce que les libéraux étaient donnés perdants jusqu'à à peu près 2-3 semaines du déclenchement des élections, et là, surprise, ils réussissent à remporter l'élection, et moi, je faisais partie de ceux qui pensait que Justin Trudeau aurait pu gagner la prochaine élection.
Hein, tu m'étonnes, ça, pourquoi? Parce que tout le monde a vu Carney le sauveur, le CV, l'homme qui allait combattre Donald Trump.
Le monde a surtout eu peur de Trump. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les deux. Moi, je pense que, évidemment, que Carney a aidé la cause des libéraux, mais je pense que les gens ont tellement eu peur de Trump qu'ils auraient été capables de choisir Trudeau plutôt que Poilievre, qui n'était pas capable de s'enlever. Non, mais là, on fait évidemment de la fiction, on est dans le passé.
On est dans les hypothèses.
Mais je pense que Trudeau, que Legault plutôt, il se dit, tout est possible, tout est possible. Et si jamais on approche de la campagne électorale et que l'argument du référendum, ça pogne, la mayonnaise, ça pogne, et que Pablo Rodriguez ne réussit pas à bâtir une grosse équipe et ne réussit pas à se décoller du dos l'idée qu'il était partie intégrante du gouvernement Trudeau, mais ben peut-être que c'est vers moi que ça va se retrouver. Puis je vois d'autres arguments aussi, rapidement, là. Il n'y a pas personne à l'intérieur du caucus de la CAQ en ce moment dont la personnalité comme ça nous se distingue vraiment du legs de François Legault. Il a fait sa plus grande erreur politique, François Legault, en muselant ses ministres, puis en muselant ses députés dans son premier mandat et en leur donnant l'impression aux gens que c'était Legault, c'était rien. Là, l'ennui,
Merci.
c'est qu'il n'y a personne qui pourrait être désigné par François Legault comme le poulain et à qui on ne poserait pas toutes les questions qu'on
Merci.
s'apprête à poser à Pablo Rodriguez, par exemple. Hein? C'est quoi qu'est-ce que vous. En quoi vous n'étiez pas d'accord avec François Legault quand il y a eu Northvolt, ça clique? Il n'y a personne qui va oser dire: Ah, moi, écoutez, je ne pensais pas comme ça. Ils sont tous associés de très près à la figure de François Legault. C'est pour ça que la seule façon pour la CAQ de trouver un autre chef qui pourrait, disons, décoller plus que François Legault, ce serait de trouver quelqu'un de l'extérieur
L'externe.
au parti.
Tellement
Là,
content.
Pascal, depuis tantôt, j'entends Pascal Rémy dire: Ah oui, merci.
Merci.
François Legault se prend pour le Messie.
Mais, non, mais merci
merci.
d'en parler parce que c'est une des affaires que, chaque mois, vous pouvez me juger, là, je fais un genre de récapitulatif de ce que je pense en termes
ouais.
de politique sur différents aspects qu'on n'a pas le temps de parler parce que, bon, point de presse, annonce et tout ça. Et c'est un des aspects que je me suis noté qui revient complètement à chaque fois qu'il y a une annonce ou à chaque fois que. Quand il y a un rififi, là, à la base, coalition veut dire un amoncellement de gens qui ont des façons de voir la politique.
Oh oui, il y a des fédéralistes, il y a des séparatistes.
Et on a décidé d'en faire une équipe qui a été promue, tu sais, disons-le comme
ouais.
ça, au pouvoir.
Oui, puis pour sortir du fameux débat oui-non référendum.
Exactement. Et François Legault, en étant au pouvoir, avait dit: je veux décentraliser le pouvoir. Puis il en parlait pour plein de ministères, pour plein de façons de faire, mais aussi au sein de son parti. Et on a vu quand ça commençait à mal aller. Et bien sûr, à partir de la pandémie, une centralisation totale du pouvoir à sa simple et unique personne. Et quand ça n'allait pas avec un ministre, quand Simon-Jolin Barrette était mal vu ou quand Geneviève Guilbeault, il ramenait tout ça à lui tellement que quand on avait une opinion différente au sein de sa coalition, puis tu dois t'en douter, si tu ramasses des gens de tout acabit, que ce ne sera pas toujours facile, ben on les fouettait, politiquement parlant, comme Bernard Drainville qui s'est mis à pleurer quand on a annoncé la mort du troisième lien, quand il y en a qui ont commencé à se prononcer sur des enjeux sur lesquels ils se sont fait élire dans les circonscriptions. Et ça, je le comprenais pas. Et ça m'a beaucoup parlé du leadership de François Legault. Puis je me dis, vers où on se dirige? Puis effectivement, en ce moment, est-ce que quelqu'un ici dans la foule, au 88-971-1021, qui est capable de dire avec force, comme on le disait lors du premier mandat puis au début du premier mandat, qui pourrait succéder au sein même du parti à François Legault et en faire une job où on se dit, ben, on est en confiance,
ouais.
sachant qu'il va fort probablement ne pas être élu ou encore démissionner ou encore se faire démissionner. Comment est-ce que tu as réfléchi la chose? Est-ce que tu voulais mourir avec ton parti? C'est une question que j'aurais envie de vous poser, les gars. Est-ce qu'il voulait mourir avec son parti?
Ben, c'était un coup de circuit de Pascal, elle a tout dit. C'est exactement ça. Tout est là-dedans. Tu sais, je me rappelle, moi, ça m'avait marqué quand ils avaient reculé sur le troisième lien. Des députés étaient sortis de la région de Québec, Bernard Drainville qui pleure, et le lendemain, ils ont une rencontre au caucus, puis ils reviennent, puis ils disent devant les journalistes: c'est bon, on est soudés, il n'y en a pas de problème. Là, tu fais,
en effet. La même chose pour les Kings. Les députés du Saguenay étaient sortis en disant: ça n'a pas d'allure, crime, avec tous les problèmes qu'il y a. Pourquoi on dépense 7 millions pour les Kings? On a amené les députés du Saguenay dans le caucus, on est ressorti. C'est bon, on a pris la bonne décision.
C'est en plein ça. Fait que c'est très délicat.
Donc, on en revient, Rémi et Pascal, puis je suis d'accord avec vous au fait que la CAQ, c'est François Legault. Ça va vivre avec François Legault, ça va mourir avec François Legault.
Oui, mais il y a la pire des options qui est sur la table de la CAQ en ce moment, c'est que François Legault finisse son mandat et démissionne le jour du déclenchement de la campagne électorale en désignant un poulain. Ça, c'est la pire affaire qui pourrait arriver parce qu'il doit donner du temps à celui ou celle qui pourrait prendre la barre
en effet.
De la CAQ, lui donner du temps pour s'installer, faire des grandes entrevues, aller à Tout le monde en parle, aller rire à Radio-Canada sur un panel plate. Tu sais, il y a ça, là. Il faut donner du temps à cette personne-là. Mais si on la révèle comme ça, à trois semaines de l'élection, c'est final bâton, c'est terminé.
Rémi Villemur, c'est toujours un plaisir de te parler. On t'écoute au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h et le samedi matin de 8h à 10h. Tout se passe bien de ton côté là-bas.
Oui, tout se passe bien. Beaucoup de travail, mais j'aime ça. On est jeunes, on avance.
Et voilà, avançons. Rémi, t'es un gars plein de talent.
Si jamais, Rémi, tu te sens seul parce que tu travailles trop, oublie pas, il y a des robots maintenant
oui,
pour ça.
Exactement. Ou viens faire un tour dans la vieille capitale, on prendra une petite bière ensemble.
Je pense que je vais faire ça.
Yes, cool! Salut Rémi, merci beaucoup. Rémi Villemur, animateur sur les ondes du 99.5. Vraiment un gars plein de talent, un jeune talent dans la politique et dans les médias. J'adore nos conversations avec lui.
Oui, puis souvent, c'est hors de ce qui grouille actuellement, là, vraiment, oui. Point fort ou annonce, puis je trouve ça intéressant, tu sais, cette analyse-là, de se dire, bon, parce que quel sera notre terrain? Quel sera le terreau politique de la province après cette élection-là? Faut se poser la question.
Vraiment, il y a un Pablo Rodriguez qui ne monte pas du tout dans les sondages. Courte pause à Boulevard 101, l'émission On en jase. Et par la suite, Pascal, on parle d'agriculture parce que c'est très difficile pour les agriculteurs et pas juste avec les changements climatiques, avec la façon que notre système est fait. Économiquement parlant.
Ben oui, puis avec Trump, qui a centralisé un peu son économie au sein de son pays, nous, au Mondial, on avait donc bien une envie d'être indépendant et d'être près de nos ressources, de s'alimenter nous-mêmes. Et est-ce qu'on donne vraiment cette possibilité-là aux agriculteurs? Ben, sachez que pour la plusieurs, ils payent de leur propre poche le fait de pouvoir vous nourrir.
Moi, quand tu m'as dit ça tantôt, j'ai fait, ça n'a pas de sens, ces gens-là travaillent entre 16 à 18 heures par jour.
Et là, tu te dis, ben, qui d'abord, ça met plein les poches? Et si c'était la Chine? Oh. Et si c'était, les bannières?
Là, tu m'intéresses. Restez des notes après la pause. Pascal CV, son dossier sur l'agriculture.